La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un monde.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. En un très extraordinaire élan au XIIe siècle, surgit un art nouveau qui s'impose peu à peu dans toute l'Europe. Une architecture bien sûr lumineuse, audacieuse, colorée, une construction de poètes, de théologiens, de maçons et d'ingénieurs qui s'enluminent des récits de l'Évangile et de la Bible. Un peuple de statues habite ses murs, ses voussures, ses portails, ses jubés, ses autels. Tout en traversant des épreuves, guerres, pestes, croisades, famines, jusqu'à la fin d'un monde que signifie la chute de Byzance, les faiseurs d'images, puis les sculpteurs et les artistes, à moins que ce ne soient les mêmes, illustrent les légendes dorées et peu à peu associent à ces récits célestes les gloires temporelles, faisant advenir de l'intérieur même de la dévotion l'individu, sa gloire, parfois sa chute et ses tourments. Ce grand récit qui nous conduit de la stupeur devant la beauté du divin à l'empathie avec le drame humain fait l'objet d'un livre somptueux qui vient d'être publié chez Azan et qui s'intitule « La sculpture gothique 1140-1430 ». Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Yves Le Pogam. Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous avoir à bord, si j'ose dire. Vous êtes docteur et spécialiste de l'art médiéval, conservateur en chef au département des sculptures du musée du Louvre. Vous avez dirigé de nombreuses expositions, je pense au premier retable, ça c'était il y a déjà une dizaine d'années, et plus récemment Saint-Louis, c'était en 2014. Et vous venez de faire ce livre qui, je dois dire, est très impressionnant par son iconographie. Vous avez été rechercher des images d'une telle qualité qu'on a une relation enfin physique à l'intérieur de ce livre.
Oui, je dois dire, j'étais très aidé par l'éditeur, hein, l'éditrice plus exactement, parce que ce sont des œuvres superbes, certaines célèbres, d'autres moins. Comme toujours, on a essayé d'alterner œuvres connues et moins connues. Mais je dois dire que c'est ça qui m'intéresse, effectivement, ces images, ces œuvres, on provoque souvent une émotion très profonde. Et l'éditrice, en l'occurrence, a fait, je crois, de très bons choix, a trouvé souvent les images, presque toujours les images que je voulais, par une ou deux. Et ça, ça fait partie toujours des moments agréables dans l'édition, ces moments
de dialogue. Ce que j'ai trouvé très, très touchant, c'est que par une sorte de soin à l'échelle de chaque représentation et une juxtaposition des représentations, on arrive à des comparaisons et un jeu de comparaisons très extraordinaire sur la psychologie de la forme, sur la légère nuance entre ceci qui est à Berlin, ceci qui est en France, ceci qui est en Espagne. Parce que ce que ça a de particulier, ce livre quand même, c'est que c'est un point de vue plus européen que nous en avons l'habitude.
Tout à fait. La grande idée de ce livre est de montrer la sculpture gothique dans son entièreté, au moins son entièreté géographique, c'est-à-dire l'ensemble de l'Europe, avec la conscience tout de même que les auteurs, c'est-à-dire moi-même, l'auteur principal, et puis mon amie, directrice et collègue Sophie Jugy, nous sommes français, donc évidemment, parfois, nous avons été amenés à mettre un peu plus de française que...
Mais est-ce que... En dehors du fait que on travaille que ce qu'on connaît le mieux, et en l'occurrence le gothique d'Île-de-France et de France, est-ce que cela veut dire que vous contestez, ou au contraire que vous trouvez que le gothique en France a été séminal?
Alors, il a été séminal. Ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. Il y a des débats à l'infini sur le sujet, mais je pense que au milieu du XIIe siècle, hein, quand Saint-Denis naît, quand cet art nouveau se crée autour de la royauté, parce que c'est vraiment un art royal, on pense que c'est vraiment fondateur.
Je vous interromps pour que vous allez continuer votre propos. Je suppose que si vous avez choisi 1140, c'est parce que c'est...
Oui, c'est Saint-Denis, bien sûr. C'est l'acte de naissance du gothique en général, par l'architecture, par la sculpture, par le vitrail, et puis aussi peut-être un peu moins moins ou pas si clairement par l'enluminure.
Il faudra qu'on parle quand même un petit peu de Saint-Denis, parce qu'il y a un personnage derrière Saint-Denis qui est très important.
Oui, c'est sujet ou sujet, on peut prononcer des deux manières d'ailleurs, mais ce grand abbé est un personnage visionnaire. C'est un personnage très intéressant, parce qu'il est modeste, il est d'extraction modeste au sens propre, il est petit, pardon, mais ce sont des détails psychologiques qu'on connaît, et il va être d'une force extraordinaire. Il est le régent du royaume, tout simplement, il est le premier ministre en quelque sorte de Louis VI puis de Louis VII, et il donne à son abbaye une parure monumentale tout à fait nouvelle, qui est effectivement l'acte de fondation du gothique.
Et donc ça, cette splendeur, c'est le début. Je voudrais, si vous le voulez bien, Hélène Losseur, notre comédienne qui est à bord de notre aventure, que vous lisiez le petit texte de Malraux qui permet de nous situer dans les drames de l'époque.
La continuité de la courbe que dessine dans notre tradition la civilisation et l'art, depuis le XIe jusqu'au XVe siècle, résiste mal à l'examen. L'épopée commence de façon soudaine. En 1050, la chrétienté d'Occident n'est rien. En 1099, elle prend Jérusalem. En 1090, qu'est la sculpture ? 50 ans plus tard, c'est Chartres. En 1250, 60 chantiers de cathédrales ou de grandes églises sont ouverts, où l'on travaille, avec un espoir nourri par plus d'un siècle de conquêtes. 20 ans plus tard, Saint-Louis mort, l'Empire latin est perdu, les croisades abandonnées. Les travaux des chantiers ralentissent ou cessent, dans une agonie de l'épopée non moins soudaine que sa naissance. Le pape, frappé par Nogaret, l'est par l'envoyé du petit-fils de Saint-Louis, Philippe le Bel. Et devant le bûcher des Templiers, qui termine sinistrement les croisades, on ne peut se défendre de penser que l'épopée chrétienne, elle aussi, a connu son thermidor.
C'est une description de l'époque dans laquelle naît votre livre, au fond.
J'adore ce passage de Malraux, parce que Malraux dit une chose qui est très juste. L'art, que ce soit l'art médiéval ou l'art contemporain, n'est pas quelque chose qui naît petit à petit, etc., avec des rythmes tranquilles. Ce sont des révolutions, ce sont des rythmes avec des moments tragiques, des dramatiques, un essor, peut-être une fin, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on perçoit très très bien dans la sculpture gothique, avec ce moment qu'on vient de décrire rapidement, là, de naissance vers 1140, et puis aussi des moments de rupture, des moments de transition parfois très rapide, y compris entre différents pays, différentes régions qui sont pas au même rythme, et différents artistes. Il y a des artistes novateurs, d'autres retardataires ou traditionnels, c'est pas forcément un jugement de valeur.
Alors, quand ça commence en 1140, mais Chartres, c'est un petit peu avant ou je me trompe ?
Alors, c'est en même temps. La dernière exposition de mes collègues et amis, Philippe Planieux et Damien Bernier, a bien montré que c'est vraiment un phénomène de dialogue entre Chartres et Saint-Denis. C'est absolument au même moment.
C'est juxtaposé.
C'est en même temps.
Et alors, quand ça commence, donc effectivement, c'est un art nouveau qui surgit à ce moment-là, d'un côté et de l'autre, même s'il y a dans les élans, le souvenir symbolique de ce qu'a été l'art roman, si je puis dire, c'est-à-dire des abstractions qui surgissent encore de la matière. Comment est-ce que vous pouvez caractériser, du point de vue de la sculpture, parce que l'architecture c'est plus clair, mais du point de vue de la sculpture, ce qui change ?
Alors, c'est assez facile, ou au contraire très difficile, parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Je me pose la question, en fond, qu'est-ce qui change en sculpture ? On pourrait dire que ça ressemble énormément à la sculpture romane. C'est spiritualiste, c'est très allongé. Vous avez ces grandes statues-colonnes absolument infinies qu'on voit à Chartres, mais aussi à Saint-Denis et ailleurs. C'est décoratif, c'est imagé, c'est monstrueux. Alors, qu'est-ce qui change, vous me direz, par rapport à la roman ? Tout ça, ça se trouvait déjà dans la roman. Bien, ce qui change fondamentalement pour moi, c'est l'organisation, c'est la structure qui est à l'arrière-plan, c'est la grille. Et ça, au fond, c'est ce que Panofsky disait déjà d'une certaine manière à propos de sujets et de tous ses écrits.
Alors, ce que vous appelez la grille, c'est quelque chose de très très important, j'imagine. C'est ce qu'on peut appeler le programme. C'est que tout d'un coup, il y a un programme d'ensemble peut-être plus lisible que ça ne l'était à l'époque romane.
Oui, c'est exactement ça. C'est l'idée. Y a-t-il des programmes à l'époque romane ? Oui et non, mais probablement non. Et là, brusquement, ce qui apparaît, c'est cette idée de rationalisation, de structuration vraiment du discours iconographique, mais aussi de la façade, mais aussi de l'église. Si vous voulez, Panofsky a parlé de ça à propos de l'architecture gothique, à propos de la croisée d'ogives, mais c'est vrai aussi pour le discours, c'est vrai pour les chapiteaux. Et les chapiteaux s'organisent, même quand on voit des monstres, des chimères, des sirènes, elles sont organisées.
Mais alors, c'est ce que ça voudrait dire, que le programme décrit, fait une démonstration. Faire un programme, c'est faire une démonstration. Ça veut dire que, est-ce que vous voulez dire que la cathédrale gothique est une démonstration?
Alors, oui et non? Je n'irais pas si loin, parce que là, on reviendrait au fond au très beau livre, aux très belles thèses d'Émile Malle, il y a un siècle, pour lequel la cathédrale est une somme. Oui et non. C'est une somme dans la mesure où effectivement le discours tend à s'unifier, le discours tend à vouloir être sous contrôle. Et effectivement, le décoratif existe toujours. Il est dans les marges. Il y a un discours qui peut échapper à cette vue d'ensemble. Mais cette vue d'ensemble, effectivement, prédomine désormais avec des axes très importants, la catéchèse, l'enseignement, la conviction. Alors que la Roman fonctionnait d'une manière très très différente, beaucoup plus selon des principes monastiques. Et là, on est dans une église qui est tournée vers les fidèles. C'est très différent.
C'est une Saint-Denis et
oui,
pas...
Saint-Denis pourtant est une église monastique.
C'est ce que j'avais dit.
Vous m'avez pris au piège en quelque sorte. Vous savez qu'aujourd'hui c'est une cathédrale, mais à l'époque c'est une abbatiale, c'est une église monastique. Néanmoins, c'est une église qui est sous la coupe du roi de France, ou en tout cas tournée vers les laïcs, parce que le roi de France est chez lui à Saint-Denis. D'ailleurs, les rois sont enterrés et sont chez eux à Saint-Denis, pas seulement sous la mort.
Alors, ce qui va se passer dans ce programme, c'est que ça veut dire qu'il y a une conception théologique. Quel est comment il se construit ce programme? Est-ce que il y a des théologiens, des évêques qui vont dire il faut faire comme ça, il y a en bas l'Ancien Testament, au-dessus le Nouveau, ça doit avoir une relation avec l'architecture? Est-ce que ça va très loin, c'est très précis, ou est-ce qu'il y a une non-unité? Par moment, dans votre livre, vous laissez entendre, me semble-t-il, qu'il n'y a pas une unité absolue, ni de style, ni de programme.
Absolument. Et les deux se recoupent pas, forcément. Alors, pour le programme, quand même, il y a une volonté de programme. Encore une fois, on voit bien qu'un évêque, un chapitre de chanoine, un abbé, même un commentaire laïque, a une intention programmatique globale. Mais après, le chantier, ben, il est ce qu'il est. Et puis, il y a souvent quelqu'un qui est intermédiaire, on oublie trop souvent, qu'au Moyen-Âge comme maintenant, entre le maître d'ouvrage, qui est quelqu'un de très important, très occupé, très riche, mais très occupé, et les artistes, il y a souvent un étage intermédiaire qui est le maître d'ouvrage délégué, en quelque sorte. Et à l'époque, c'est très souvent tel chanoine, tel clair plus versé dans l'iconographie qui va un peu finaliser le programme. Donc déjà, il y a une orientation plus spécifique. Et puis, il faut tenir compte de la topographie. Souvent, il y a un discours très global, très complexe, très cohérent, mais dans les édifices gothiques, et notamment les cathédrales, eh bien, on tient compte évidemment du fait que tel portail regarde telle direction, il regarde l'évêque, il regarde vers la maison de l'évêque, vers les chanoines, oui, il regarde vers les fidèles, et donc c'est pas le même discours. C'est pour ça qu'à Saint-Denis, pour venir à Saint-Denis, même si c'est une abbatiale, la façade, elle regarde vers les laïcs.
Absolument. Voilà. Oui, oui. Est-ce que vous voulez bien, Hélène, nous lire, justement, puisque vous aviez parlé de Panofsky, écoutons un extrait d'Architecture gothique et pensée scolastique, qui est un livre très extraordinaire. Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, ce livre.
Il est toujours d'actualité.
C'est une démonstration très, très intellectuelle, très belle, mais ce petit texte est très beau, vous verrez.
On a justement remarqué que l'animation délicate qui distingue de leur devancier roman les personnages du premier gothique, de la façade ouest de Chartres, reflète le renouveau de l'intérêt pour la psychologie, qui s'était assoupie pendant plusieurs siècles. Mais cette psychologie reposait encore sur la dichotomie biblique et augustinienne entre le souffle de vie et la poussière terrestre. À Reims et à Amiens, à Strasbourg et à Nambourg, les statues classiques, infiniment plus vivantes, sans être encore des portraits, et la flore et la faune, tout à fait naturelles, sans être naturalistes, de l'ornementation classique, proclament la victoire de l'aristotélisme. Tout en professant l'immortalité de l'âme humaine, on y voit alors le principe organisateur et unificateur du corps lui-même, plutôt qu'une substance indépendante. Une plante, pense-t-on, existe en tant que plante, et non en tant que copie de l'idée de plante. On croit que l'idée de Dieu peut être démontrée à partir de sa création plutôt qu'a priori.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'art et la matière, et je suis avec Pierre-Yves Le Pogam pour parler, vous l'avez compris, de l'art gothique et particulièrement de la sculpture gothique qui, effectivement, au moment où nous en parlons, est en train de prendre son essor et de changer de système de référence. Est-ce que c'est explicite, ce système de référence qui change? Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur le sens de ce texte?
Alors oui, en tout cas, le passage de Panofsky est remarquable. Moi, je l'avais oublié, par contre, là, et je suis ravi de l'entendre à nouveau parce que ce texte de Panofsky, qui est très célèbre, donc sur architecture et pensée scolastique, comme le dit son titre, s'intéresse plutôt à l'architecture. Néanmoins, le passage est très juste, très synthétique et très intelligent, comme toujours chez Panofsky. Il dit bien la réalité de ce qui se passe, c'est-à-dire pas forcément non plus l'abandon de l'augustinisme. Ça, c'est peut-être un peu un raccourci, mais en tout cas, l'arrivée de l'aristotélisme, ça, tout le monde le sait. Plus ou moins, c'est...
Qu'est-ce que ça veut dire,
c'est-à-dire, vous savez qu'Aristote, évidemment, était méconnu ou moins bien connu que Platon pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'au XIIe siècle. Et puis, même rejeté. Mais surtout, là, on a eu des traductions par le biais du monde arabe, par le biais des traducteurs juifs, des traductions très nouvelles, et surtout sur la physique d'Aristote. Donc, sur tous ces travaux concernant le monde naturel et cette approche du réel. Donc, c'est vrai que là, il y a des ferments, si vous voulez, intellectuels qui sont nouveaux et qui expliquent probablement en grande partie, sont pas les seuls, l'attitude nouvelle des sculpteurs, des commanditaires et du public face aux œuvres d'art.
Donc on est dans une volonté de représenter le réel et pas l'idée du réel, et dans ce réel, il faut y trouver une beauté spirituelle.
Alors c'est absolument ça, avec une nuance, je dirais, c'est exactement ça, c'est que Panofsky fait allusion à Nombourg, qui est très important, parce qu'il dit, mais c'est pas tout à fait des portraits. Si, ce sont des portraits.
C'est quoi Nombourg ?
Mais Nombourg, donc, c'est cette cathédrale en Allemagne, en Saxe, extraordinaire, qui, vers 1250, disons, montre des sculptures d'une qualité vraiment incroyable, qui procède de Reims, mais qui va plus loin, qui prend son style à partir de Reims, mais qui va plus loin.
On est 100 ans après Saint-Denis, après le début
de
Saint-Denis.
Oui, c'est ça, on est vraiment vers 1250, donc. Et à ce moment-là, ce sont des portraits de fondateurs. Donc, ils ont déjà au moins deux siècles. Ils sont morts depuis bien longtemps, mais pourtant, on les voit comme s'ils étaient plus réels que vous et moi ou que nos voisins. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un naturalisme, mais un naturalisme non pas pour dire... pour reproduire vous et moi, mais pour reproduire des choses qui sont beaucoup plus importantes, parce qu'effectivement, c'est parfois des réalités soit passées, soit spirituelles, qui sont plus importantes que les réalités d'ici-bas.
Qu'est-ce qui fait qu'on met à Nombourg, parmi les saints, des profanes? Alors, c'est presque scandaleux, si j'ose dire.
C'est très rare, c'est relativement rare, mais il y a d'autres exemples quand même. Mais il y a une raison très très précise. D'abord, on oublie trop souvent que cet art des cathédrales, cet art des églises, peut être aussi un art profane, parce qu'au Moyen-Âge, le profane est dans le religieux et le religieux est dans le profane, de toute façon.
En fait, c'est une séparation qu'on a aujourd'hui, mais qui n'existait pas de cette façon.
Non, mais voilà, elle n'existait pas. Et puis, à Nombourg, comme dans les autres exemples parallèles que nous montrons dans ce livre, eh bien, la raison, elle est très simple, c'est parce que ce sont des raisons-là, bien terre-à-terre, politiques, juridiques, c'est pour dire à d'autres personnes, c'est nous qui avons les droits de posséder cette cathédrale, parce qu'il y avait un conflit en fait avec une autre cathédrale. Ils étaient en conflit ouvert depuis deux siècles, ils venaient de gagner à peu près, et donc là ils sont en train d'affirmer face à un autre évêché que c'est eux qui ont le pouvoir. Donc ce sont les chanoines et l'évêque qui font ça pour affirmer vraiment leur ancienneté, leur importance.
C'est alors, très fréquent. Il se passe quelque chose, parce que vous venez d'évoquer Reims, et quand on pense à Reims, on pense à la liberté extraordinaire que les sculptures commencent à prendre, les sourires de l'ange de Reims, par exemple, ou du beau dieu d'Amiens, qui est à peu près la même période, non?
Oui, c'est à peu près en même temps.
C'est un tout petit peu avant. Et on a la sensation, mais peut-être que je me trompe, que l'artiste se sent artiste.
Alors ça, c'est une question fondamentale, et à question fondamentale, pas ou peu de réponses, parce que, comme je le dis, je crois en riant dans une phrase, faire une sociologie du sculpteur médiéval, c'est un petit peu une gageure, parce qu'on n'a pratiquement rien. Alors en réalité, on connaît quand même des choses, vers la fin du XIIIe, le XIVe siècle, il y a quand même pas mal de renseignements, mais à l'époque de Reims, par exemple, toutes ces sculptures dont on voit qu'elles sont faites par des sculpteurs très différents, des ateliers peut-être, mais ils ont un esprit totalement différent. En 50 ans, ils produisent des choses d'une diversité étonnante. On ne connaît absolument pas leur nom.
Mais vous reconnaissez les mains ?
Mais on reconnaît leurs mains, oui. Alors, oui. Avec le mot main, il faut se méfier parce qu'évidemment, il y a toute une question qui est derrière, c'est l'attribution, l'attributionnisme. On reconnaît au moins des ateliers et des directions stylistiques qui sont très claires. Après, le partage des mains, c'est-à-dire le fait de dire c'est tel artiste qui a fait ça, là c'est un artiste secondaire, là c'est l'apprenti, là c'est le maître. Il faut rester très modeste.
Hein. J'aimerais bien, on va écouter ce que, histoire de voir comment l'histoire avance, puisque le texte qu'on va écouter est bien ancien, il doit bien avoir une soixantaine d'années. On va écouter ce que dit Malraux de l'artisan de la cathédrale, et j'aimerais savoir ce que l'on en pense aujourd'hui, que vous nous décriviez comment marchait, pas le chantier de la cathédrale, mais le chantier des sculpteurs.
Le terme d'artisan, appliqué aux sculpteurs romans et à ceux des cathédrales, n'a évidemment aucun sens hors de son sens social. Ni le maître de Moissac, ni celui du beau Dieu ne sont tenus pour d'habiles menuisiers. Pas tout à fait non plus pour les auteurs de leurs œuvres, mais peut-être pour les interprètes de la musique profonde que l'Église maintenait à travers les siècles, choristes ou maîtres de chapelle selon l'œuvre. Cette musique a disparu avec la foi liturgique, le dernier chœur avec la dernière cathédrale. L'Annonciation d'Amiens était née de sa cathédrale et avec elle. Le calvaire de Slaughter est son propre monument et il naît, comme les figures de la chartreuse de Champmol, du génie de son auteur. L'atelier devient celui d'un maître et non d'un maître d'œuvre. La sculpture va cesser d'être un art d'anonyme. En n'attendant plus que de lui-même ce qu'il avait tenu de la cathédrale, en substituant des figures de tendresse ou de compassion à des figures de foi, en créant seul et pour un dialogue avec le chrétien des figures naguère créées pour manifester à la chrétienté la présence de Dieu ou l'avènement du Christ, le sculpteur cesse d'être un révélateur de la cité divine, mais découvre un mystérieux pouvoir.
Nous sommes avec Pierre-Yves Le Pogam pour parler de son livre La sculpture gothique en 1140-1430. Et en fait, quand Malraux évoque cette orbe, ce passage de l'artisan dont le nom ne convient pas, dit-il, à Slaughter qui devient l'artiste, il suit un peu le chemin que vous faites vous-même dans votre livre. Et est-ce que cette transformation est aussi simple que ce que l'on décrit ?
Oui, mais je dirais presque Malraux a encore plus raison que nous, si j'ose dire, parce que vraiment, pourtant Malraux se trompe hein, parfois, mais là, ce qu'il dit est très très juste. Il dit au fond, non, ce sont des artistes à part entière, depuis Moissac jusqu'à Slaughter. La grande différence entre Slaughter et Moissac, c'est que Slaughter, c'est un nom propre d'artiste parce que nous le connaissons par plein de sources, pas mal de sources. Mais puis à Moissac, c'est un nom de lieu parce que les artistes de Moissac, malheureusement, nous n'avons pas conservé les archives. Donc la grande différence fondamentale, ça n'est pas le statut de l'artiste, encore que, on peut y revenir, mais c'est tout simplement les archives qui sont infiniment plus nombreuses en ce début du XVe siècle où meurt Slaughter que au XIIe siècle où florissait Moissac.
Alors à l'époque de Moissac, on va abandonner Moissac, mettons à l'époque de Chartres, puisque Moissac c'est un petit peu avant, à l'époque de Chartres, la sculpture est soumise au projet d'ensemble de la cathédrale. À l'époque de Slaughter, il est maître de son projet, si je puis dire.
Alors, là, vous posez une autre question qui est très importante, c'est est-ce que le sculpteur est indépendant de l'architecte, indépendant des autres artistes ? J'allais dire, là aussi, réponse question très intelligente, réponse un peu médiocre. Oui et non. Oui et non. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans beaucoup de cas, parce que les sculpteurs sont nés dans le même milieu que les architectes, parce que justement, ce sont d'abord des tailleurs de pierre, tout de même, ils apprennent leur métier, je parle surtout de la pierre, mais pour le bois, ça vaut aussi, ils sont également souvent capables d'être architectes, souvent sont les mêmes personnes. Le cas le plus célèbre, c'est pas un hasard, c'est Peter Parler, qui est justement l'un des premiers, au moins le premier dont on soit à peu près sûr, qui fait aussi son autoportrait en tant que sculpteur et en tant qu'architecte. Donc, j'allais dire, oui, c'est possible, il y a des autonomies, mais elles sont variables selon les lieux et les temps. Il y a des sculpteurs qui ne sont que sculpteurs, Et puis, au contraire, des sculpteurs, ou plutôt des artistes, qui sont des artistes comme Picasso, qui touchent à tout, qui sont peintres, un peu sculpteurs, un peu ceci, un peu cela.
Et quelle était la mobilité alors d'un sculpteur et de son atelier? Il était à Amiens, il peut partir en Allemagne?
Oui.
C'est aussi large que
alors,
ça?
C'est tout à fait ça, avec encore une fois une différence selon les niveaux. Vous avez des gens qui restent toute leur vie là où ils sont, parce qu'ils sont bien, puis aussi parce qu'il y a des commandes. Si vous êtes à Paris en général, sauf quand c'est vraiment la crise, et il y a eu des crises où Paris a été complètement anéanti ou très affaibli, je pense pendant la guerre de 100 ans évidemment, mais à Paris il y a quand même toujours du travail, plus ou moins, donc on reste à Paris. Néanmoins, même à Paris, vous avez des artistes qui sont entre deux grandes commandes royales qui peuvent dire « je vais travailler pour un autre commanditaire ». Et on sait qu'effectivement, à Amiens, on voit que les sculpteurs d'Amiens, par exemple, sont actifs probablement, ou des sculpteurs d'Amiens sont actifs également en Espagne. Les sculpteurs de Reims, comme j'ai dit tout à l'heure, sont certains sculpteurs de Reims, peut-être, probablement, sont actifs également ensuite à Bamberg, puis à Hambourg. Donc on voit effectivement des voyages d'artistes. Donc les deux existent.
Et comment se forment-ils ?
Là, on a encore moins de renseignements, mais tout de même, on a un ouvrage célébrissime qu'on cite toujours, c'est Villard-Dohoncourt, bien sûr. Le magnifique petit carnet, j'allais dire, c'est au fond, voilà, un carnet de dessin, comme moi, quand je fais des crobards, qui sont quand même beaucoup moins réussis que ceux de
Ils sont pas mal, les siens, quand même. Hein, ouais.
Voilà, les siens sont très bien. Mais il a pas une prétention, je pense, d'éternité. C'est un carnet, quand même, pour lui. Et là, on sait qu'il y en avait beaucoup d'autres. On en a quand même quelques autres témoignages. Et il se forme dans deux endroits différents. Il se forme soit dans ce qu'on appelle les loges des cathédrales, ce qui ensuite a donné lieu à toute l'idée de la franc-maçonnerie. Donc c'est la loge, c'est tout simplement la baraque de chantier au pied de la cathédrale. Ça, c'est pour la pierre, en gros. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi d'autres sculpteurs qui travaillent en ville, soit sur la pierre, soit sur le bois. Et bien ça, c'est dans leur ouvroir, c'est-à-dire leur atelier en français moderne, où ils se forment avec leur père, ou bien ils sont apprentis auprès d'un autre.
Est-ce qu'ils font, comme le feront les artistes 200 ans plus tard, le grand tour?
Alors, le grand tour n'est pas institutionnalisé à ce moment-là. C'est pas une obligation. C'est quelque chose qui, effectivement, naît vraiment à l'extrême fin du Moyen-Âge, au XVe siècle. Ce XVe siècle que nous avons décidé de ne pas traiter complètement. Nous sommes arrêtés au début du XVe siècle parce que nous pensons, Sophie Jugy et moi, que c'est un peu un autre monde qui commence à ce moment-là. Et notamment, c'est à ce moment-là que les corporations, que les confréries, que les Tours de France ou que les grands tours, que le compagnonnage, toutes ces institutions qui parfois sont un petit peu bloquantes d'ailleurs, mais on s'en échappe aussi éventuellement, sont mises en place en France comme dans les autres pays. Par exemple, les loges aussi, ce système des loges très très précis qu'on connaît en Allemagne où les architectes pouvaient passer d'une loge à l'autre, mais à condition d'avoir rempli les conditions du chef-d'œuvre, du parrainage et de payer évidemment ce qu'il fallait payer aux autres pour être accepté maître. Tout ça, c'est un système qui vraiment est de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance.
Alors, on parle évidemment des cathédrales, mais il y avait une sculpture privée en même temps, non? Comment se font les deux marchés, si je puis dire?
Alors, encore une fois, bien sûr, les cathédrales sont très importantes, et surtout au XIIIe siècle, ce grand siècle des cathédrales. Mais il n'y a pas que ça, vous avez raison, il y a d'autres églises. D'abord, il y a quelques abbatiales encore, ça continue, des collégiales, là où sont les chanoines, des chapelles, surtout privées, dans le cadre des grandes demeures, des hôtels ou des palais des grands princes. Et puis, vous avez même aussi des sculptures qui sont faites pour d'autres espaces, notamment pour l'espace public, les marchés, l'hôtel de ville, le pont. Donc voilà, on voit peu à peu que, et c'est ça qui est intéressant dans ce moment de recréation de la sculpture quand même, qui avait déjà eu une magnifique floraison à l'époque romaine, mais on voit qu'elle s'empare de thèmes qui étaient oubliés depuis l'époque romaine. Et bien sûr, la statue équestre avait existé avec Marc Aurèle, mais là on voit qu'elle reprend.
On la revoit à Bamberg, par exemple.
Voilà, on la revoit à Bamberg, on la revoit ensuite.
Alors qu'est-ce qu'on voit à Bamberg? Vous pouvez nous décrire ce qui se passe?
Alors à Bamberg, c'est assez étonnant et c'est assez compliqué. On voit un cavalier qui est magnifique, un cahier qui surgit de la nuit, si j'ose dire. Mais c'est un peu ça parce que...
On a la même culture télévisuelle.
Mais surtout, non, c'est pas une blague, c'est parce qu'il pose beaucoup de problèmes encore d'interprétation. Et puis, il n'est pas une vraie ronde bosse. Il est un relief, mais c'est assez extraordinaire parce que c'est un très haut relief, mais qui est tellement illusionniste dans son approche que quand on le voit, on a toujours l'impression que c'est une ronde bosse totale, donc une statue indépendante. En fait, non. Et il faudra attendre, disons, 10-20 ans après pour qu'à Magdebourg, on voit la première statue équestre indépendante en Europe depuis l'époque romaine.
Vous le soulignez dans le livre, mais j'aimerais bien que vous le formuliez avec nous. C'est il y a des thèmes qui apparaissent peu à peu et qui changent la sensibilité et qui changent aussi la conception religieuse quasiment. Je pense, vous avez donné l'exemple dans le livre de la Pietà, il y en a d'autres. Est-ce que vous pouvez nous indiquer deux ou trois thèmes que on voit apparaître et qui en 300 ans, 250 ans, se transforment tout?
Alors absolument, ça c'est une des choses qui me semble les plus fascinantes. Et pour moi, encore une fois, ça n'est pas une apparition progressive, c'est comme le style. C'est comme les artistes. Ce sont des moments de précipitation pour l'iconographie aussi, où il y a quelque chose qui se passe. Le grand moment, c'est vers 1300, pour aller vite, pour simplifier. Mais vers 1300, entre la fin du XIIIe et surtout le début du XIVe siècle, en Rhénanie, et là aussi dans un lieu précis, c'est pas n'importe où, c'est notamment en Haute-Rhénanie, entre Bâle, Constance, Strasbourg peut-être, dans des couvents de femmes, notamment des couvents de femmes, on crée des représentations iconographiques complètement inouïes. Bien sûr, la Vierge de Pitié, à laquelle vous avez fait allusion, mais bien plus terrible que ça, le Christ sur une fourche patibulaire, c'est-à-dire mise à mort sur une croix, qui n'est pas une croix comme on a l'habitude, mais une espèce de fourche, comme c'était d'ailleurs le cas réellement, quand on pendait un gibier de potence, justement, ouais, à ce moment-là. Donc ce sont des iconographies absolument révolutionnaires, qui ont d'ailleurs été si compliquées, si inouïes, qu'une partie de la population n'acceptait pas ce genre de
violence. Pourquoi est-elle venue, cette violence? Il y a une transformation dans la dévotion
et... Alors, il y a deux explications possibles. Et comme toujours, les choses ne sont pas simples. On pourrait dire de manière un peu simple, au fond, c'est les malheurs des temps. Parce que le XIVe siècle, comme
il y a les flagellants,
c'est la peste, c'est l'épidémie, c'est la guerre, ce sont les fléaux de l'apocalypse, comme dirait Bergman.
Oui.
Mais il faut réfléchir, quel film magnifique. Mais au fond, si on regarde un peu les choses, c'est pas si sûr que ça. Est-ce que les nouveautés iconographiques ne précèdent pas? En fait, elles apparaissent à un moment où ça va pas si mal. Et puis, il y a eu aussi d'autres fléaux avant. Si vous voulez, je pense que les choses sont plus compliquées. Mais effectivement, peu à peu, et c'est un mouvement très important, c'est ce qu'on appelle la devotio moderna, la dévotion moderne. Il y a des changements très profonds qui sont faits. Donc, dans ces couvents de femmes, mais aussi avec des hommes, bien sûr, qui les accompagnaient, qui étaient leurs confesseurs, qui écrivaient ce qu'elles pensaient, qui les aidaient, ou parfois s'appropriaient leurs idées. Mais ce sont des dominicains, des cisterciens, des chartreux. Tous ces gens-là ont une conception nouvelle de la piété qui est centrée effectivement sur l'individu. L'individu dans son rapport, bien sûr, au Christ, dans son rapport à Dieu, et dans son rapport avec un Dieu souffrant. Et ça, c'est complètement nouveau. Un Dieu souffrant qui est un Dieu laid. Un dieu laid, j'insiste là-dessus.
Ça, oui.
La beauté qui est, la beauté sauvera le monde, mais là, on montre des images terribles et horribles. Non seulement terribles, mais laides. Le Christ a tellement souffert qu'il devient un objet terriblement laid.
Mais c'est compassionnel, en fait.
Évidemment, c'est compassionnel, mais ça reprend des textes de mystiques, ils sont très importants, qui rappellent que, selon les psaumes, le Christ devait dépasser justement cette image de la beauté. Vous voyez, on pense toujours que la sculpture gothique, c'est la beauté, c'est l'harmonie, c'est le naturalisme. Moi, je dis que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est que ça dit aussi d'autres choses à d'autres moments. Et c'est dire, non, il n'y a pas que la beauté, il y a aussi Beckmann, si vous voulez, pour dire autre chose, enfin, pour prendre des exemples contemporains. C'est aussi la laideur qui peut nous parler parce que ça nous provoque en nous un effroi, une rupture par rapport à tout simplement effectivement la laideur ou l'horreur du monde.
Mais c'est là que la sculpture cesse de devenir un texte pour devenir une émotion, en fait. Il y a quelque chose comme cela. Ça voudrait dire que le sujet regardant est beaucoup plus sollicité émotionnellement qu'intellectuellement.
Oui, alors c'est une émotion. Alors en même temps, il faut se méfier évidemment parce que les hommes du Moyen-Âge sont quand même des gens très intellectuels. À ce qu'on croit, ils sont pas dans le sentimentalisme non plus débridé. Donc c'est vrai, mais c'est une émotion qui est conduite souvent. Par exemple, les images ne sont pas regardées tout le temps. Elles sont regardées dans des moments précis.
Oui.
Parce que on ouvre le retable, on dévoile la statue, on vient prier dans la chapelle à certaines heures et pas à d'autres. Donc il y a aussi un rythme, un cheminement, si vous voulez, pour aller vers l'œuvre et pour lui faire dire quelque chose qui est cohérent avec un certain moment, puis à d'autres moments, on peut regarder quand même des images parfois un peu plus douces.
Et alors, dans les images douces, si je puis dire, il y a quelque chose qui est peut-être surprenant dans les cathédrales et dans la représentation, dans les sculptures des cathédrales, c'est l'importance que parfois prend le monde profane dans les cathédrales, les métiers, les activités, les mois, les calendriers, les activités.
Alors, encore une fois, ça doit être à mon sens, parce que tout simplement, il y a cette interpénétration du monde profane et du monde religieux. Mais plus profondément encore, c'est peut-être parce que, on l'oublie, le clergé est très important à cette époque-là, mais il est en osmose avec le monde laïque. C'est-à-dire que ces moines, ces chanoines, sont pas enfermés. Les moines, normalement, sont chez eux, hein, dans leurs habits. Mais les religieux, non. Les franciscains, les dominicains parcourent le monde. Et donc, ils arrivent, ils vont prêcher devant des gens qui ont des expériences quotidiennes d'amour, d'économie, etc. Et donc les franciscains, les dominicains, les carmes, etc. sont tournés vers les laïcs parce que ils veulent les convaincre, et pour les convaincre, ils les connaissent et ils connaissent leur vie quotidienne.
Il y a une sanctification du travail aussi. Est-ce que c'est
Il y a bien sûr une sanctification du travail, et c'est Saint François notamment. Enfin, je veux dire les grands mouvements de réforme de l'Église à partir du XIIIe siècle disent au fond l'homme en travaillant peut aussi arriver à la sanctification indépendamment justement des cadres religieux, des cadres tout en respectant la hiérarchie de l'Église, mais arriver à cette sanctification. Oui.
Alors, vous dites cet aspect très important, c'est que c'est vrai que c'est une civilisation très intellectuelle et c'est assez passionnant de s'en rendre compte. D'ailleurs, dans la poésie, je pense à la poésie courtoise, on le sent très fortement. C'est une poésie très savante d'une certaine façon. Et il y a quelque chose qui va apparaître d'autre. Et j'aimerais bien que vous nous lisiez un texte. Je pense que c'est un texte de Georges Duby sur la sculpture funéraire. Parce que ça aussi, les tombeaux, c'est quelque chose qui va apparaître et qui va être très important dans l'histoire.
La religion, dont l'art des cathédrales est figuration, n'était pas la religion du peuple, mais d'une petite élite d'intellectuels. Ceux-ci se répétaient que le Christ a vaincu la mort. Ils la niaient. Au lever de chaque aurore, les rayons du matin de Pâques illuminaient pour eux le sanctuaire. Et sur les registres superposés des tympans, l'humanité rachetée sort des sépulcres comme d'un mauvais rêve. La face des ressuscités se délivre des ombres de la nuit. Leurs yeux s'ouvrent. Ils repoussent le linceul. Ils étirent au soleil un corps de perfection. Ils entrent dans la vie véritable. Lorsqu'à l'intérieur de l'église, on commença de décorer la tombe des prélats et des princes et d'y placer l'image du défunt, le clergé de la cathédrale ne l'admit donc que transfiguré. L'effigie funéraire de l'évêque Évrard de Fouillois à Amiens, celle du duc Guelph Henri le Lion à Brunswick, celle que le roi Saint-Louis fit sculpter à Saint-Denis, auraient pu tout aussi bien trouver place dans les porches parmi les statues des prophètes. De fait, leurs vêtements ne recouvrent pas un cadavre couché sur le lit funèbre. Ses plis tombent droit le long d'un corps dressé, déjà levé vers les lumières de l'au-delà. Elle porte, comme le roi David ou Salomon, un visage de confiance et de plénitude, sans rides et sans souillures, paisible. On lisait dans saint Augustin « Dieu s'est fait homme pour que nous autres devenions comme des dieux ». Puisque le Christ de l'incarnation et de la résurrection entraîne avec lui vers le Père tout le peuple des mortels, puisque la mort n'est qu'un passage, et la tombe, le lieu de germination où chaque être charnel se prépare à éclore à sa gloire, l'art de la cathédrale montre le corps des défunts dans la forme accomplie, intemporelle, dont la foi les sait déjà revêtus.
Vous écoutez L'Art et la Matière, vous êtes sur France Culture évidemment, et je suis avec Pierre-Yves Le Pogam pour son livre qui vient d'être publié chez Hazan, La sculpture gothique de 1140 à 1430. Et comme nous abordons les sujets inventés au fond par cette période extraordinaire, on voit l'apparition effectivement de la sculpture funéraire dans les cathédrales.
Alors le texte de Georges Duby est magnifique, encore une fois, et je regrette de ne pas m'en être rappelé, pas pour le livre en l'occurrence, mais pour un autre des articles que j'ai fait sur le sujet il y a quelque temps, parce que il dit de manière évidemment magnifique, comme il l'écrivait de sa plume superbe, une réalité très très importante. On a dit à l'instant que le Moyen-Âge est intellectuel, c'est vrai, mais en même temps il est très réaliste. Et, la question qui se posait tout le temps, c'était « oui, mais je meurs ». Et comment je serais, puisqu'on croit dans la résurrection des corps, C'est le dogme de l'Église encore aujourd'hui, normalement.
Oui, il n'y a pas de doute.
Comment sera mon corps? La question était fondamentale. Est-ce que je vais ressusciter vieux ou plus jeune, avec mon sexe? Après tout, puisque si je suis marié, etc. Et donc, c'est des questions que se posaient les pères de l'Église. C'est pas des questions secondaires. Or, les artistes, évidemment, là, en l'occurrence, n'ont pas obéi, mais ont dialogué avec les théologiens. Et effectivement, c'est une question fondamentale, puisque l'idée de l'Église, est, peu à peu, elle n'est pas venue tout de suite, mais c'est de dire, oui, on va ressusciter au même âge que le Christ. Hein. C'est la grande idée, c'est le corps doit être parfait, puisque c'est un corps réel, mais en même temps un corps qui doit être parfait, eh bien, ça tombe bien, le Christ, il est mort à 30 ans, on va ressusciter au même âge. Alors ça posait quand même des petits problèmes de temps en temps, parce que si on était mort avant, mais voilà, c'est ce que dit Duby. Duby dit le corps doit être beau, il doit être parfait, non pas pour des raisons esthétiques de narcissisme, mais pour des raisons théologiques, parce que je dois être à l'égal du Christ le jour où j'arrive au paradis. Alors, pour les damnés, c'est une autre question, mais finalement, ça, comme tout le monde espérait plutôt passer au paradis, sur le tombeau, on n'allait pas se poser la question. Oui, mais la question, elle est là.
Le voit bien dans les Gisant de Fontevraud, par exemple, Henri de Plantagenet, Léonard d'Aquitaine, ils ont une trentaine d'années.
Et ils sont vivants. Ils sont vivants et ils ouvrent les yeux. Alors, il y a des variantes.
Hein. Parfois.
Oui, Miklos, très juste. Ouais. Mais Aliénor, elle lit. Donc, il faut bien qu'elle ouvre les yeux. Elle a un livre entre les mains qu'elle lit. Donc, elle n'est pas du tout passive, elle n'est pas morte. Alors, il y a des gisants en Italie, c'est un peu différent. En Italie, ils ont les yeux fermés, en général. Hein. Mais en France, ils ont les yeux ouverts pour signifier ça. Mais c'est un... Comme le dit Duby, c'est une effigie ambiguë, le gisant. Hein. Il est à la fois couché, mais il pourrait être debout. Il a les yeux ouverts, souvent, mais quand même, il est déjà dans l'au-delà. Donc, c'est une figure de contradiction.
C'est une figure impossible, en fait.
C'est une figure impossible.
Ouais, ouais.
Et c'est le mort-vivant.
Et alors, puisque vous parlez du mort-vivant, le transi, c'est-à-dire le corps en train de se décharner, apparaît
Je réalise qu'on en a pas dû en montrer.
Parce que c'est quand même
une
des représentations très spectaculaires de la sculpture.
Maintenant, quand même, si on... Alors, ça apparaît à l'extrême fin du XIVe siècle. Hein, des exemples les plus connus, c'est bien sûr Guillaume de Orsini, à Laon. Et puis ensuite, on en voit quelques-uns en Suisse. Dans l'espace germanique, ça a commencé. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on voit que... et ça va être vraiment le grand thème du XVe siècle. Donc là, c'est pour ça qu'on ne doit pas en montrer vraiment. Je ne sais plus si on en montre un. Mais... si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que l'idée qui est sous-jacente à ça, qui est celle de la pourriture en quelque sorte du monde, le corps comme le monde peut pourrir, c'est normal, elle est déjà en fait exprimée avant dans d'autres représentations et notamment dans le tentateur de Strasbourg, je crois que je l'ai montré par contre, qui est extraordinaire puisque c'est le diable.
Scène parce que
donc c'est le diable en personne, un peu comme dans Les Visiteurs du Soir, encore une référence cinématographique qui arrive, mais il a l'air très beau, mais à l'arrière, puisque scénographiquement, sur la cathédrale de Strasbourg, il est présenté, c'est une copie, aujourd'hui l'original est dans le très beau musée de l'œuvre juste à côté, mais on comprend très bien quand on voit la copie sur le portail, il se présente un peu de biais, parce qu'il regarde les vierges folles qu'il est en train de tenter, évidemment, et si elles avaient tourné de l'autre côté, si elles avaient voir derrière son dos, elles verraient que son dos est rempli de crapauds, de serpents, c'est terrible. Donc voilà, le Moyen-Âge a déjà exprimé cette idée de corruption, peu à peu, dans des thèmes extraordinaires, sur le diable, sur la femme aussi, tentatrice, tentée, et puis ensuite il va l'appliquer effectivement au transi, où ça devient un peu différent, puisqu'on dit, voilà, on fait la différence entre ce corps mortel et le corps immortel. C'est un peu comme le roi est mort, vive le roi, appliqué à Monsieur Tout-le-Monde.
Alors, c'est ce que vous décrivez, les Vierges folles, d'abord, c'est un très beau thème, les Vierges folles. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer un petit peu, ce thème?
Oui, alors bien sûr, c'est une parabole très importante de l'Évangile qui est... conçu dès le temps des pères de l'Église au premier siècle du christianisme comme une annonce, comme une réflexion en même temps sur le jugement dernier, puisque dans la parabole, les vierges sages ont bien allumé leurs lampes, elles attendaient tranquillement, donc elles ont droit de rentrer au paradis, tandis que les autres se sont mises se sont un peu amusées, elles ont perdu leur huile et donc elles sont chassées du paradis. Et c'est un thème qui est extrêmement frappant, et ce qui est frappant, c'est non pas son existence, parce qu'il existait auparavant, mais c'est sa monumentalisation. On en fait un vrai théâtre, puisque ça existait dans les marges, et on en fait peu à peu des grandes statues, comme à Strasbourg effectivement, ou à Magdebourg et ailleurs, surtout dans l'espace germanique, pour en faire quelque chose de totalement dramatique, et effectivement en faire une sorte d'avertissement au public, aux femmes peut-être, mais pas seulement, en disant, attention, imitez bien les vierges sages et pas les vierges folles.
C'est, puisque vous parlez du théâtre, parce qu'on on connaît bien l'influence du théâtre, c'est-à-dire la représentation des miracles sur la peinture, est-ce que c'est exact également sur la sculpture ?
Alors, d'abord, c'est une question qui a été constamment discutée, évaluée, sous-pesée, etc. Mais, j'allais dire, c'est plus encore même pour la sculpture qu'on devrait le dire. Et à mon avis, c'est vrai. Alors, je pense que il est toujours difficile de généraliser et la difficulté, encore une fois, pour le XIIIe, XIVe siècle, par rapport au XVe ou au XVIe, c'est qu'on a moins de textes, on a moins de données textuelles, simplement. Les mystères commencent surtout à la fin du XIVe siècle. Mais il est évident qu'il y a un rapport entre ces drames liturgiques qui précèdent le théâtre proprement dit et la mise en scène, effectivement, de ces iconographies sur les cathédrales.
Est-ce qu'il y a des ensembles qui donnent la sensation d'une scène ? Ou est-ce qu'il faut attendre Chambol, par exemple, et le Puits de Moïse de Sluter, ou est-ce que auparavant, quand on passe sous tel jubé, il y a une sorte de crucifixion complète qui donne la sensation que c'est un
oui, là vous pensez bien théâtre. Sûr à l'exemple extraordinaire de Nombourg, toujours il faut le citer parce
c'est spectaculaire.
Et c'est pas seulement Nombourg.
Vous pouvez nous l'écrire ?
Alors ce qui est très très frappant à Nombourg, c'est qu'on a ce qu'on appelle un jubé, c'est-à-dire une sorte de clôture qui sépare la nef et le chœur. En l'occurrence, c'est compliqué parce que là c'est un chœur occidental, il y avait deux chœurs dans les églises allemandes, mais enfin bon, peu importe. Et quand on passe la porte a un trumeau, vous savez, c'est cette espèce de petit pilier qui sépare les deux portes secondaires, en quelque sorte. Et ce pilier, il est constitué, dans ce cas, du corps du Christ crucifié. C'est quand même extraordinaire, puisque métaphoriquement, du coup, on exprime évidemment la fameuse phrase du Christ qui dit « Je suis la porte ». C'est la première fois qu'on le fait. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre exemple comparable. Il y a un exemple un peu postérieur en France, mais plus tardif, en dehors de notre période.
Mais il y en a eu qui ont été détruits, peut-être.
Il y a peut-être aussi des exemples qui ont été détruits. Mais voilà un exemple de mise en scène extraordinaire. Voilà. Après, il y en a beaucoup d'autres également. Peut-être encore une fois en Allemagne. J'aime beaucoup l'exemple allemand parce que peut-être c'est là où on voit aussi encore une fois qu'il y a des capacités à inventer qui sont différentes selon les pays. Alors peut-être c'est pas juste de citer que l'Allemagne. Il faudrait peut-être citer aussi quand même l'Italie. Si vous pensez Arnolfo Di Cambio. Voilà. J'aurais dû penser moi qui a aimé tant que ça et qui est aimé Arnolfo. C'est le grand sculpteur italien. On pense toujours à Giovanni Pisano et Nicola Pisano, son père. Mais Arnolfo qui était à la fois ami et puis après rival est extraordinaire, et Arnolfo est peut-être alors que Giovanni.
Mais pourquoi l'aimez-vous
à cause de cette mise en scène.
Et donnez-nous un exemple.
Un exemple que j'ai pas reproduit on n'a pas reproduit dans l'ouvrage, qu'on peut pas tout faire, c'est la crèche de Sainte Marie Majeure à Rome. Vous savez que c'est Saint François qui a inventé l'idée de crèche au début du XIIIe siècle. On faisait pas de crèche avant, je veux dire, c'est lui, il a fait une crèche vivante. C'était un théâtre en fait. C'est Saint François a vu miraculeusement l'enfant Jésus, et donc il a inventé l'idée de crèche avec voilà le bœuf est là, et puis l'enfant là est apparu directement, c'était encore mieux. Bon, et puis pas de sapin parce qu'on n'avait pas encore inventé le sapin, mais enfin bon. Et ce que fait Arnolfo Di Cambio, oui c'était un peu mais ce que fait Arnolfo Di Cambio à peine 50 ans après, il met en scène ça dans la basilique Sainte Marie Majeure dédiée à la Vierge, c'est pas un hasard, où on conservait évidemment des reliques de la crèche. De la crèche au sens propre, de la mangeoire, de la mangeoire où était le Christ. Et donc Arnolfo reconstitue ça. Alors aujourd'hui, le groupe a été un peu démantelé à l'époque baroque, mais quand même, il est toujours visible et il redonne ce moment extraordinaire de la nativité, mais qui n'est pas la nativité voilà, en général, mais un peu comme dans les visions de Sainte Brigitte, vous savez, quand on dit toujours, à juste titre probablement, qu'elles ont influencé la peinture sur ces fameuses scènes de nativité à partir du milieu du XIVe siècle, mais bien avant. Donc, dès le milieu du XIIIe siècle, la sculpture invente la crèche en trois dimensions avec Arnolfo Di Cambio.
Ah, ça, voilà. Donc là, on est exactement. C'est l'exemple est totalement convaincant. Vous parliez de Pisano, Nicolas et
Giovanni.
Et Giovanni. Il y a quand même cet extraordinaire. Comment est-ce qu'on appelle cela ? Cette sorte de
les pupitres. Oui, on dit les chairs en général.
La chair de Pisano.
J'évite le mot chair pour des raisons complexes que j'explique dans le livre, enfin rapide, c'est que je pense que c'est pas des chairs, mais voilà. Mais en français on a l'habitude de dire chair, en italien on dit pulpito.
Parce que c'est quasiment pupitre. Une scène cette chair.
Ce sont des chairs et en tout cas des scènes sur le pupitre. Ce sont des pupitres Alors, une
Pisanou, c'est juste, on est juste avant la Renaissance, en fait, dans le. C'est, oui, mais il entraîne l'Italie vers la Renaissance.
Voilà, il entraîne l'Italie, c'est ce que disait très Florence, bien Vasari. En fait, ouais. Vasari qui n'aimait pas l'art gothique, puisque justement, c'est lui qui crée le mot gothique pour les déprécier, pour déprécier l'art gothique. Mais Vasari, quand même, évidemment, exclut les Pisano de cette condamnation. Alors, oui. Nicolas Pisano, on est vers 1260, et puis Giovanni va jusqu'au début du XIVe siècle. Et effectivement, dans leur pupitre, comme j'aime à dire, ils mettent en scène, alors complètement, effectivement, des récits bibliques, évangéliques le plus souvent. Et ce qui est quand même nouveau, là on n'a pas eu le temps de le lire, mais c'est très important, c'est évidemment qu'ils se servent de la leçon de l'Antiquité, notamment Nicolas, mais aussi Giovanni, pour traduire ces émotions, ce pathos formel. Ils peuvent utiliser par exemple telle figure de satyre pour évoquer tel démon, telle figure de sibylle ou de dame romaine pour évoquer la Vierge ou Élisabeth. Donc ils se servent vraiment de ce vocabulaire antique qu'ils ont sous les yeux, parce qu'ils ont des sarcophages sous la main à Pise et ailleurs, pour évidemment redonner ce théâtre chrétien sur les pupitres.
Pierre-Yves, donc une question, puisque vous évoquez la question de l'Antiquité, je comprends très bien que les Pisano en Italie ont l'Antiquité sous la main, si je puis dire. Est-ce que c'est le cas et est-ce que cela a une influence importante également dans l'art gothique non italien?
Bien sûr, faut pas oublier que l'Empire romain s'était étendu quand même beaucoup plus loin que l'Italie. Hein. La France, bien sûr, avait des très nombreux fragments. Alors souvent, des statues, pas tant que ça, mais de temps en temps quand même des statues, mais surtout des reliefs, des sarcophages, des reliefs d'arcs de triomphe qui avaient été gardés parce qu'on trouvait que c'était assez joli, ou alors on les avait christianisés. Et puis même, on pouvait ramener de Rome des souvenirs, des cadeaux en quelque sorte. Tel prélat, l'évêque Henri de Blois, par exemple, avait ramené chez lui à Winchester, c'était quand même l'évêché le plus riche d'Angleterre, donc il pouvait se le permettre, il avait ramené une collection d'antiques de Rome. Donc on avait bien sûr des exemples sous la main, et c'est pour ça qu'à Reims notamment, donc bien loin de Rome, Reims, Rome, mais c'est pas la même chose, on trouve évidemment déjà cette leçon de l'Antiquité avant les Pisano.
Alors, je m'apercevais que dans le livre, je ne sais pas pourquoi, c'est surtout peut-être une interrogation que vous avez, les barbes et les cheveux que vous trouvez particulièrement
antiques. Je n'avais pas réalisé ça, mais c'est juste, d'abord parce que c'est un élément important, l'élément capillaire pour un artiste, je pense.
C'est aussi une virtuosité.
C'est aussi une virtuosité, ça permet d'exprimer évidemment des choses très profondes, mais c'est aussi peut-être, je sais pas, j'ai réfléchi beaucoup au sujet à propos de Saint-Louis, sur lequel j'avais fait une exposition il y a maintenant 6 ans, et sur lequel j'ai continué à réfléchir à cause de ces représentations, et je me suis rendu compte que c'était une question fondamentale, notamment cette question de la barbe pour les rois, ça pose des tas de questions, parce qu'il y a une symbolique derrière, et ça pose des questions d'interprétation.
C'est intéressant.
Oui, en deux mots, c'est facile, c'est parce que on s'aperçoit que Saint-Louis développe une barbe après la croisade, probablement signe de pénitence, parce que la croisade est un échec en réalité, on n'a jamais assez dit, mais c'est son grand œuvre, mais il a raté, c'est d'ailleurs comme ça qu'il est saint, parce que voilà, on est saint parce qu'on rate quelque chose en général, parce qu'il est martyr aussi. Mais bon, tout ça pour dire que la barbe et les cheveux sont aussi des signes religieux.
C'est une pénitence.
Si elle est hirsute, voilà. Et notamment la barbe, ça peut être ça. Ça peut être aussi, bien sûr, très joliment coiffé, ça c'est l'autre côté. Et ça, c'est l'élégance chez les dames, mais chez les messieurs aussi. Hein. La coiffure, c'est très important. Vers 1400, c'est un des sommets à ce moment-là. On a des coiffures très extravagantes, très complexes. Et les sculpteurs, évidemment, jouent avec ça.
Alors, vous le dites dans le livre, à partir de 1400, les femmes qui apparaissent, par exemple, sur les portails ou sont en Bourgogne en particulier, sont des dames habillées incroyablement profanes, d'une élégance folle. La mode est en train de s'installer quasiment sur les édifices religieux.
Oui. Alors je pense pas qu'il y avait au départ, en tout cas, il n'y a pas une volonté, si vous voulez, de profaner.
Ah non.
Hein, l'édifice, ou de profaner le discours.
Mais le laïciser, mais peut-être.
Et le laïciser, peut-être pas. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, par souci de beauté, on attribue forcément aux saints et aux saintes les plus beaux atours, les plus belles coiffures.
Elles le méritent, c'est ça que
ça. Elles le méritent, voilà. Elles doivent être très très belles. Alors, on a parlé tout à l'heure de la laideur, mais ça, bon, c'est quand même l'exception.
Mais ça voudrait dire que c'est une transposition de la beauté de l'âme.
C'est la beauté de l'âme, absolument. Et puis encore une fois, c'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au paradis. Si on est digne du paradis, puisque là, forcément, les saints, on en est sûr. Hein, nous autres, pauvres mortels, c'est pas sûr, mais les saints, on en est sûr quand même. Donc forcément, s'ils sont au paradis, ils doivent être vêtus des plus beaux atours. Mais comme vous savez, c'est vrai que là, il y a un glissement. Ce que vous dites, et c'est juste, c'est bien sûr qu'on va vers un glissement. Et ce caractère de plus en plus profane de la sculpture et des autres arts, d'ailleurs, va finir par poser un problème, puisque c'est au fond, là, c'est la cause première de la réforme. C'est ça. C'est ce caractère trop laïque,
sensualisation.
Trop sensuel, trop ouais. élégant, trop riche, trop somptueux, trop vulgaire. C'est ce que disent les prédicateurs. Ils emploient des mots bien plus forts que ce que je viens de dire désigner ces saintes et ces saints.
Alors, il y a un personnage, évidemment, dont on ne peut pas ne pas parler parce que c'est un des grands génies de l'histoire, avant Michel-Ange, si je puis dire, c'est Sluter. Sluter fait ce fameux puits de Moïse à Dijon, à la Chartreuse de Champmolle, qui est une sorte d'unicum. Ça ne ressemble à rien qu'on connaissait d'équivalent, je suppose.
Oui, alors, on peut tout à fait dire ça. Et bien sûr, Sophie Jugy, ma collègue, amie et directrice, en parlerait mieux que moi, puisque c'est elle qui a écrit chapitre et puis qui est la plus grande spécialiste du sujet. Mais ce qu'on pourrait dire, et c'est très facile, c'est la chose suivante, c'est que, oui, vous avez raison, c'est unique. Mais en même temps, c'est un peu typique de ce moment-là, c'est qu'on voit des personnalités extraordinaires s'affirmer. C'est-à-dire que chacun, là, j'ai parlé tout à l'heure de Peter Parler, il est juste un peu antérieur à Sluter, mais il y en a bien d'autres, en Espagne, en Angleterre, à Paris. On voit que chacune des capitales rivalise de luxe. Hein, parce que là, vraiment, c'est une question d'argent. Le duc de Bourgogne, le duc de Berry, avec un Jean de Cambrai qui est quelqu'un d'extraordinaire. Chacun donne à ses artistes les moyens d'être lui-même, d'être eux-mêmes, de s'exprimer jusqu'au bout de leur personnalité. Et c'est pour ça que chacun va effectivement aller... Ou alors, Sluter est un des plus grands, hein, mais c'est pour ça que c'est intéressant. On a les moyens à ce moment-là, on est libre. Il y a une certaine liberté, effectivement, de l'artiste, j'y crois. Pourtant, le programme est là. Hein. Il y a un programme très complexe qui est sûrement déterminé par des théologiens. Mais néanmoins... il y a tellement d'argent et il y a tellement de... Là, je disais tout à l'heure que ces mécènes ne s'occupaient pas... C'est pas vrai, de temps en temps, le duc de Bourgogne allait voir quotidiennement son chantier.
Oui, il faut dire que il était passionné, mais c'était aussi l'homme le plus puissant quasiment de l'Europe à cette période-là.
Absolument, absolument. Hein, et il faisait construire son tombeau aux portes de Dijon, donc c'était quand même assez facile pour lui d'aller le voir de temps en temps.
Et c'est pour vous, est-ce que Sluter conclut d'une certaine façon l'aventure de la sculpture gothique ?
Oui, oui. Lui et les autres sculpteurs qu'on montre à ce moment-là, vers 1420-30, jusque vers là, parce que ils arrivent à une sorte de paroxysme très simple. Ils mêlent la plus grande attention possible au réel, avec cette capacité de capter le monde et de reproduire l'imitation, et en même temps. Ils veulent en faire une sorte d'image féerique transcendante. Et cette contradiction, à mon avis, est ce qui fait qu'on devait passer à autre chose.
Vous pensez qu'on a énormément de choses à apprendre encore sur le gothique. Est-ce que vous pensez que ce livre que vous avez fait, qui est absolument splendide, révolutionne ce que l'on savait ?
Je prétendrai sûrement pas révolutionner quoi que ce soit, mais je pense qu'en tout cas, il n'est qu'un point de départ. Tout est à faire, tout est à dire et tout commence.
Merci infiniment Pierre-Yves Le Pogam et bravo pour ce livre magnifique.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées... qui passe.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Pierre-Yves Le Pogam, conservateur en chef au département des sculptures du Musée du Louvre, mais surtout auteur de ce grand livre qui vient de sortir chez Hazan, La sculpture gothique 1140-1430. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Séam Boutata, merci Séam, lecture des textes Hélène Losseur, prise de son Manuel Couturier, réalisation comme toujours Thomas Jost, et dans quelques instants, Jukebox par Amaury Chardot. Bon après-midi sur France Culture.